ce règlement-là.
L'avant-match.
Dans l'avant-match, voici Louis-Jean.
Monsieur Louis, comment ça va?
Ça va extrêmement bien et tu as raison. Tu sais que je suis un ancien arbitre, moi
oui,
aussi.
Oui, c'est vrai, tu as fait
Alors, j'ai écouté ton explication et ce qui m'impressionne le plus de ce que tu viens de dire, c'est le fait que tu avais le souci de ton juge de ligne de 15 ans et tu disais, tu veux pas que le coach ambitionne ça, je te salue. Parce que je pense que le monde l'oublie, les parents l'oublient dans cette culture des fois un peu bizarre du hockey mineur.
Oui, ça arrive trop souvent et il faut garder l'œil à ça. Puis c'est comme si au hockey mineur, contrairement à d'autres sports, les entraîneurs, et je vise pas l'entraîneur de Côte-de-Beaupré, il a été très poli, là, les entraîneurs en général et les parents en général, c'est comme si Louis se permettait un écart de conduite qui n'est pas permis dans d'autres sports.
Non, mais c'est-tu quoi, ça ouvre un peu la parenthèse, tu me permettras, Dan, là, mais
vas-y.
J'ai discuté avec beaucoup de coachs dernièrement, ouais. Tu sais, sur la situation de Bill Peters, puis de Mike Babcock, puis de même de Mark Crawford avec les Blackhawks de Chicago. J'ai hâte de parler au commissaire puis savoir qu'est-ce qui se passe, entre autres, avec Mark Crawford, parce qu'il est actuellement suspendu par les Blackhawks.
Ouais.
Mais ça me faisait penser, puis il y a un coach qui m'a allumé sur quelque chose, j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai. Ce que tu vois, toi, dans l'arbitrage, ce que tu vois dans l'hockey mineur, si on parle de culture de hockey, là, mais cette culture-là de hockey, là, elle commence dans les arénas avec les parents à l'endroit des arbitres ou des jeunes de l'autre équipe parce qu'il y en a un qui est trop mangé de pas, qui est trop ci ou trop ça. Les affaires qu'on entend, là, on critique des coachs dans le niveau pro et c'est correct. Il y a eu des écarts de conduite, des choses qui ne sont pas permissibles. Mais en même temps, je pense que les gens doivent faire un examen de conscience sur ce qu'on voit et ce qui se fait dans des arénas d'hockey mineur, des équipes et des kids à tombe, puis pee-wee, puis ces choses-là. Parce que je m'excuse, mais là, c'est facile de pointer un coach dans le pro puis dire, ben ça n'a pas de bon sens, puis t'es outré. OK, mais pense à des fois le comportement que toi-même tu as. Et l'autre jour, je suis allé voir samedi matin, le match, en fait, dimanche matin avec mon père, je suis allé voir un Bastion, parce qu'on en a déjà parlé, des Bastions.
Oui.
Mon garçon qui jouait à Saint-Jérôme.
Okay.
Puis là, un moment donné, il y a un parent qui chialait puis qui était sur l'arbitre. Puis ça, je disais, le petit kid qui est là, je dis, je suis même pas sûr qu'il a 15 ans. Je dis, fait que c'est-tu quoi, quand il va parler au coach, là, ça prend du courage, puis je sais, je l'ai fait. Alors, je dis, hey, il y a 15 ans, puis c'est dû à tomber. Fait que, écoute, calmez-vous un peu, là.
Louis, tu sais, quand on arrive dans
Petite parenthèse, pardon.
Ben non, c'est une très bonne parenthèse. Tu sais que notre chronique traite de hockey, mais on n'a jamais dit qu'elle traitait juste du Canadien, hein?
Non, tu as parfaitement raison, et c'est ce que j'adore.
Louis, quand tu circules dans les rues de ton quartier résidentiel, des fois, il y a une pancarte qui dit « Faites attention aux enfants, ça pourrait être le vôtre. » OK?
Oui.
Tu l'as déjà vu dans les quartiers résidentiels?
Ben oui, absolument. Ben oui.
La région de Québec, je veux dire Appalaches, la région de Québec, ici, là où je me trouve actuellement et là où j'arbitre, viennent de lancer une vidéo qui est en ligne depuis aujourd'hui avec des affiches dans les arénas. Dans les prochains jours, dans les arénas, il y aura des affiches d'un jeune qui a 14 ou 15 ans, qui est photographié. Et c'est un peu le même principe. On voit ce jeune-là, puis on explique aux parents, pas ça pourrait être le vôtre, mais pas les mêmes mots que dans la rue quand on essaie de prévenir les automobilistes, mais quasiment. Arrêtez de crier après, ça pourrait être le vôtre, c'est un enfant.
Oui, c'est vrai, c'est extrêmement important. Puis j'ai l'impression que des fois, on a des moments, il y a des situations qui peuvent se produire qui font en sorte qu'on fait une réflexion. Puis j'espère que ce qui se passe actuellement, les discussions que les gouverneurs, que les propriétaires, au moment où on se parle, ça a commencé il y a quelques minutes seulement, les propriétaires, donc c'est ceux qui sont là pour s'assurer que de la pérennité du sport que tout le monde aime, le hockey, et qui se développe de la bonne façon, qui se joue de la bonne façon et tout ça, eux, ils sont en train de discuter présentement. En fait, c'est probablement pas eux qui parlent présentement, ça doit être le commissaire Gary Bettman, qui ouvre la discussion, et c'est une rencontre de 3 heures aujourd'hui, et ça va durer aussi longtemps que nécessaire de parler de la culture du hockey et du respect, et de traiter les autres d'égal à égal, et ces choses-là. Des choses qu'on n'accepterait pas dans un aréna, des adultes qui crient à un jeune enfant parce qu'il a fait ci ou parce qu'il a fait ça, parce qu'il marque trop de buts, parce que il a crié à un jeune parce qu'il a manqué une punition, un jeune arbitre ou des choses comme ça. Je pense que c'est le moment, là, parce que là, tout le monde regarde un peu ce que la Ligue nationale va décider et ce qu'elle va faire. Ben, je pense que, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est le moment aussi de nous autres de regarder puis de prendre un peu de recul puis de dire, OK, là, pas le Canadien, mais la Ligue nationale va ressortir avec. Il y a du monde qui ont parlé d'un code de conduite. Moi, on me dit, il n'y en aura pas de code de conduite.
Okay.
On va discuter de choses qui sont peut-être permissibles, des choses qu'on peut tolérer, qui sont acceptables, et des choses qui ne le sont pas. By the way, ce que Bill Peters a fait lorsqu'il a tenu des propos racistes à l'endroit de Kim Alliou, tout le monde s'entend pour dire que ça n'a rien à voir avec le hockey. Ça, c'est inacceptable, peu importe dans ce que tu fais dans la vie.
Ouais.
Mais tout le monde va regarder un peu ce que la Ligue nationale va dire, puis ils vont dire, OK, maintenant, c'est un peu la ligne qu'on doit suivre, que ce soit dans le hockey junior majeur, ou même aussi un peu dans la société. Puis la réalité, c'est que c'est pas à la Ligue nationale de nous le dire. Tout le monde le sait. On sait comment on doit se comporter. Il faut juste agir de la bonne façon. Puis quand tu es un parent qui te laisse emporter, que tu perds ton sang-froid à cause d'un jeune arbitre ou d'un enfant ou d'un kid, ou à un moment donné, là, sérieusement, le problème, c'est pas le kid. Le problème, c'est pas le hockey, c'est pas le sport. Le problème, c'est toi.
Exact. Exact, entièrement d'accord. Louis, vous aviez le choix de Kamouraska, du nord de Buffalo et de Pebble Beach. Et encore une fois, c'est Pebble Beach qui a gagné pour la réunion des gouverneurs.
Winnipeg aussi. N'oubliez pas Winnipeg.
Winnipeg était considéré. OK. OK.
combien de jours? Tout était balayé de revers de la main.
Oui, c'est ça. OK. Pebble Beach, combien de jours? Puis c'est quoi l'enjeu de ces réunions-là? Tu vas me dire, à chaque année, Dan, au début décembre, il y a une réunion. Ben oui, je le sais. Mais cette semaine, tu en as parlé un petit peu tantôt, tu as parlé de code de conduite, mais quel autre gros sujet est à l'ordre du jour, selon toi?
Ben, il y a le plafond salarial qui devient important parce que l'année passée, le plafond salarial qu'on nous avait dit a été moins élevé à la fin de l'année. Alors, le plafond salarial, c'est toujours un dossier chaud. Tu sais, dans le passé, ici, Dan, ça a brassé, là. Ça a déjà brassé parce qu'il y avait menace de lockout. Il y avait littéralement des guerres entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs. Et sans parler de guerre, je te dirais qu'un dossier qui est extrêmement, extrêmement important actuellement, et qu'on dirait que personne n'en parle. Moi, j'ai parlé avec des sources aujourd'hui de la Ligue nationale et des équipes à ce sujet-là. C'est le contrat de travail. Oui. L'Association des joueurs, semble-t-il, n'est pas encore prête à vouloir vraiment déterminer, OK, oui, on serre la main, on a une entente. Ils veulent toujours revenir à leurs joueurs, les faire voter, avoir vraiment le pouls des joueurs dans chaque décision, chaque discussion qui est prise, ce qui est parfaitement normal. Mais la Ligue nationale, elle, de son côté, dans un an, veut renouveler un contrat de télé américain. Elle veut avoir une certaine stabilité. Et puis, en dire à un diffuseur, on veut faire un deal à long terme avec vous autres, mais il nous reste 3 ans. Là. On a 3 ans de stabilité en termes de contrat de travail versus 7, 8, 9 ans. Ça fait une énorme différence. Alors, pour moi, ce qui se passe avec l'Association des joueurs et la Ligue nationale, c'est important parce que au-delà de ce que je viens de te mentionner aussi, on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer avec la Coupe du Monde. On peut pas savoir les rendez-vous internationaux, les Olympiques et ces choses-là parce que la Ligue ne bougera pas, ne discutera pas de ça tant qu'on n'a pas un contrat de travail.
OK, mais il y avait une date butoir, c'était de mémoire au début septembre. Et depuis cette date-là, on sait que le lockout prévu pour l'an prochain a été évité, là.
Le lockout est évité. Oui, là-dessus, ça s'est réglé le 15 septembre dernier. Mais ça ne veut pas dire que tu avances plus pour une Coupe du Monde. La Ligue la veut, cette Coupe du Monde-là. L'Association des joueurs aussi. Mais tant qu'il n'y aura pas de contrat, tant qu'on n'aura pas une entente, c'est difficile de commencer à négocier puis de vraiment prévoir et de regarder loin dans le futur. C'est ce que la Ligue veut faire. C'est ce que l'Association des joueurs veut faire également. Mais on n'arrive pas à régler le contrat tout de suite devant nous pour pouvoir commencer à planifier ce genre de choses-là.
OK, parfait. Parlons un peu du Canadien avant de se laisser. Le Canadien a gagné contre les Rangers vendredi, puis on est rendu lundi. Là, c'est rare, mais il n'y avait pas d'hockey le samedi soir en fin de semaine. Mais là, la semaine qui attend le Canadien, c'est Pittsburgh demain. Et ensuite, c'est Ottawa et Détroit à domicile. On l'a dit dans les dernières semaines, et mauvaise séquence de 8 défaites, mais on a dit, si le Canadien veut revenir et participer aux séries, va quasiment falloir qu'il gagne 2 matchs sur 3. Mais cette semaine-ci, qui débute ce soir, Louis, le Canadien est condamné à gagner 2 matchs sur 3.
Là. Ben là, ils n'ont pas le choix. Puis je te dirais que même, il faut presque qu'ils gagnent les 3 matchs. Si on dit Pittsburgh, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. C'est une équipe qui a une longue liste de blessures. C'est une équipe qui est décimée par les blessés présentement. Et malgré tout, continue de gagner. Moi, ça m'impressionne ce qui se passe à Pittsburgh. Le Canadien de Montréal, c'est pas compliqué, Dan. Ça se joue là. C'est maintenant que tu détermines si tu vas faire un pas en avant, 2 en arrière, ou si tu es capable de prendre un step. Parce que je parlais avec des collègues de Toronto, puis eux autres, ils se disent, ça va prendre des séquences, plusieurs séquences de victoires consécutives pour que les Leafs entrent en série. Puis quand tu regardes ce qui se passe autour, là, c'est pas facile. Alors, pour moi, le Canadien, arrête de niaiser. Si tu veux vraiment rentrer en série, faut que tu prouves que tu es une équipe, tu prouves que tu es capable de gagner avec régularité. Ça veut pas dire qu'ils seront pas une bonne équipe. S'ils gagnent pas, ça veut juste dire qu'ils sont pas rendus là encore.
Est-ce que le plan, tu penses que c'est encore de faire les séries?
Je pense que oui, mais je ne sais pas à quel point c'est réaliste. Pour être bien honnête, je pense que ça va être très, très, très difficile.
Non, réaliste. Non, je comprends. Là, c'est une histoire de chiffres rendus là, puis on analyse le tableau. Toi à Montréal, moi à Québec, puis on se rend bien compte que ça va prendre beaucoup de victoires. Puis il y a des équipes comme Toronto et Tampa qui ont immensément plus de talent que le Canadien, qui vont aussi lutter pour cette place en série. Mais est-ce que tu penses que quand les portes sont fermées, dans le bureau, le souhait de l'organisation, c'est encore de faire les séries?
Oui, mais je pense que c'est un souhait qui est réaliste. Je pense que c'était peut-être un peu un country club. Là. Je pense que quand Albert Drouin est arrivé, il avait une certaine idée de ce que c'était être un directeur général, mais il ne l'avait jamais fait avant. Je pense qu'il a appris à la dure. Il y a certaines décisions qui ont été prises, qui ont fait en sorte que lui, oups, ça a été des échecs, ça a été des mauvaises signatures, ça a été des mauvaises transactions. Je pense sincèrement, pas que je veux le défendre, il n'est pas parfait, crois-moi. C'est pas ce que je dis. Mais je pense que maintenant, il a une vision beaucoup plus à long terme. Je pense que maintenant, ce qu'il se dit, c'est moi, là, je peux pas bâtir cette équipe-là pour gagner aujourd'hui. Si je vais chercher, par exemple, Jean-Gabriel Pageau, ça m'aide pour 3 mois. Ça m'aide. Je suis même pas sûr que je le garde à la fin de l'année. Je sais pas si je suis capable de le re-signer. Je sais, tu sais, là, mais ça va m'aider pour entrer en série. C'est-tu ça que je veux? C'est-tu ça que j'ai besoin? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Et je pense que l'équipe se dit, on compétitionne pas, nous autres, actuellement, avec les Bruins de Boston. Puis on compétitionne pas, nous autres, actuellement, avec les Capitals de Washington. Puis avec les Blues. Tu sais, les équipes qui vraiment se disent, nous autres, la fenêtre, c'est maintenant. Je pense qu'ils sont beaucoup plus lucides que ça, actuellement.
Parfait. Un gros merci, Louis. Bon séjour en Californie. C'est combien de jours, la réunion? 3 jours?
C'est 2 jours seulement. Ils se sont rencontrés cet après-midi. Donc, ici, c'est de 15h à 18h, là, heure
à
locale.
À votre heure, ouais, OK.
Demain matin. Après ça, tout le monde repart chacun de son côté, mais c'est seulement 2 journées de réunion. Il y a beaucoup de choses à couvrir pendant ce temps-là. Et by the way, là, je suis ici, là, à Pebble Beach. Toi qui es un golfeur,
ce que je
vois devant mes yeux actuellement, là, tu capoterais.
Ça n'a pas de sens que ce soit toi qui sois là. Ça devrait être moi, vu que j'aime le golf.
Écoute, je le sais. Sincèrement, je te niaise pas, là. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu une pensée pour toi quand j'ai vu ce parcours absolument paradisiaque.
C'est gentil.
Un jour, tu viendras ici avec moi.
C'est gentil. Au moins une pensée, c'est déjà bon.
Hey,
salut,
écoute,
Louis.
Moi, je me disais, si j'avais à jouer sur ça, là, oui? Je pense que je sortirais quelques jurons parce que je ne suis pas sûr que je serais capable. J'en perdrais à peu près 45 des balles.
L'océan fait partie de l'expérience à Pebble Beach, mais tu sais combien ça coûte? Un green fee, un droit de jeu en bon français pour jouer là, c'est je pense, autour de 500 ou 600 $ par jour.
Confirmer que c'est 500 US.
C'est
US.
Ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on y va pas.
Ça fait mal au portefeuille. C'est ça, exactement.
Merci, Louis.
Je fasse de la radio à Québec pour pouvoir te le permettre.
Et voilà.
Et voilà.
Bonne soirée à toi. Louis-Jean, animateur à TVA Sport. Au retour de la pause, on parle avec l'excellent Ray Lalonde, expert sport et business, concernant le scandale qui aujourd'hui a frappé la Russie.
Au FM 93. Ready? L'avant-match.
De retour après la pause.
Une prix à une bonne et une mauvaise nouvelle.